je ne puis raconter qu'approximativement ce qui arriva par la suite, et encore en me servant d'analogies plus ou moins exactes. Auparavant, je ne m'en étais jamais rendu compte, mais c'est cependant bien comme ceci que les choses se passent. Nous autres sur la terre, nous marchons en somme constamment au-dessus d'une mer de feu pourpre et bouillonnante, cachée dans les entrailles de la planète. Nous n'y pensons jamais. Mais si la coquille qui est sous nos pieds devenait de verre, nous verrions ce feu. Je me vitrifiais et je vis ce qui était en moi. J'étais double. Il y avait d'abord ce que j'étais jusqu'alors, D-503, le numéro D-503, et puis il y en avait un autre. Autrefois, ce dernier ne laissait voir ses pattes velues hors de sa coquille que de temps en temps, que rarement, mais en ce moment, il se montrait tout entier, sa coquille craquait, semblait sur le point de se briser en morceaux. Je me raccrochais de toutes mes forces à un fitu de paille, au bras du fauteuil, et demandais, afin d'entendre mon premier moi, « Où vous êtes-vous procuré ce poison ?»« Oh, c'est un médecin, l'un de mes... »« De mes ?» « De mes quoi » pensais-je. Et l'autre en moi bondit et hurla. « Je ne lui permets pas. Je ne veux personne avec toi. Je tuerai celui qui, parce que je suis le seul qui... » Je vis qu'il la saisissait brutalement de ses pattes velues et déchirait la soie fine qui cachait sa poitrine, dans laquelle il enfonça les dents. Je m'en souviens très bien, c'était ses dents à lui, pas les miennes. Je ne sais comment, mais il me repoussa fermement. Elle avait le dos appuyé contre l'armoire, la tête penchée, les yeux recouverts de ce rideau maudit et impénétrable. Elle m'écoutait parler. Ensuite, je me rappelle que j'étais sur le plancher, lui tenant les jambes et lui baisant les genoux. Je la suppliais. Elle découvrit ses dents pointues et l'angle moqueur de ses sourcils, puis se pencha et saisit ma plaque. « Oui, oui, cher I, lui dis-je en me défaisant à la hâte de mon unif. Maintenant, tout de suite. » Elle, sans prononcer un mot, approcha la plaque de mes yeux. Je vis qu'il était 22h25. Cela me refroidit. Je savais ce qu'il en coûtait de se trouver dans la rue après 22h30. Toute ma folie se dissipa d'un seul coup. J'étais redevenu moi-même. Une seule chose était certaine. Je la détestais, la haïssais. Sans lui dire au revoir, ni regarder derrière moi, je me précipitais hors de la chambre. Tout en courant, je remis ma plaque tant bien que mal et descendis l'escalier de secours. J'avais peur de rencontrer quelqu'un dans l'ascenseur ou l'escalier principal. Je me trouvais enfin sur le boulevard désert. Tout était à sa place, simple, habituel, réglementaire. Les maisons de verre brillantes, le ciel de verre pâle, et la nuit immobile et verdâtre. Mais sous ce verre tranquille et frais, quelque chose d'impétueux, de pourpre et de velu galopait sans bruit. Je fonçais à perdre haleine avec la peur d'être en retard. Je sentis ma plaque, attachée en hâte, qui se détachait. Elle résonna contre le trottoir de verre. En me penchant pour la ramasser, j'entendis dans cette seconde silencieuse le pas de quelqu'un derrière moi. Je me retournai et aperçus quelque chose de petit et de courbé tourner le coin de la rue. Tout au moins, c'est ce qu'il me sembla. Je courais à toute vitesse et entendais le vent siffler dans mes oreilles. Quand je m'arrêtai sur le seuil de ma maison, il était 22h29. J'écoutais. Il n'y avait personne derrière. Tout cela n'était qu'une fantasmagorie absurde, l'effet du poison. La nuit me fut une torture. Mon lit s'élevait, descendait pour s'élever encore. Il planait suivant une sinusoïde. Je pensais. La nuit, tous les numéros sont tenus de dormir. C'est aussi obligatoire que de travailler le jour. Ne pas dormir la nuit est un crime. Et malgré tout, je ne pouvais pas. Je n'y arrivais pas. Je cours à ma perte. Je ne suis plus capable de remplir mes devoirs envers l'État unique.